Bonjour Charlotte.
Bonjour Perrine.
Bienvenue, je suis ravie de t'avoir avec moi.
Merci pour ta proposition et ton accueil.
Je te laisse nous parler de toi, te présenter un peu et puis après ta carte blanche pour nous parler de ce que tu as envie de parler, notamment la naissance de ce petit bout de chou qui est là, que vous ne voyez pas mais que moi je vois.
Oui. Voilà donc Robin qui va faire des petits bruits. Donc tu vas m'accompagner pendant ce récit, c'est ça? Ouais. Apparemment, ça lui plaît. Comment me présenter? Donc, je m'appelle Charlotte. J'accompagne les familles en tant que doula. Et Robin est arrivé. Non, je monte un peu plus haut. Hein. Tu sais, c'est dans ces moments-là, tu as le cerveau qui te dit, attends, non, on va aller un peu plus dans le passé, et un peu plus dans le passé, et un peu plus dans le passé. Voilà, j'ai énormément de joie à parler de naissance. Sur Instagram, je propose des lives ocytosiques suite en fait à ben justement la grossesse de Robin, où j'avais vraiment ce besoin de me nourrir en récit positif. Et j'avais lu le livre Naître ici de Julie Toutain. Et en fait, dans son livre, donc il y a plein de récits. Et ce qu'elle a fait, un espèce de code pour les récits qui se passent, qui sont dits positifs, et les récits, on va dire, un peu plus intenses, en tout cas qui ne se passent pas comme dans les rêves des personnes qui l'ont vécu. Et ça permettait de. Personnes enceintes qui ont vraiment besoin de se nourrir d'ocytocine peuvent choisir de ne se nourrir que d'ocytocine. Et je trouvais ça très pertinent et donc c'est parti de là. C'est live de récit ocytocique et bien qu'aujourd'hui Robin ait pratiquement 8 mois. 8 mois, oui, c'est ça. Mais je trouve ça toujours très nourrissant, très enrichissant et ça fait un bien fou. Je crois que en termes de présentation, on est bien. Je pourrais peut-être partir sur ce cheminement de qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à vouloir une grossesse libre et un enfantement libre. Donc Robin est mon deuxième enfant. Enfin. Le deuxième enfant que j'ai pu porter dans mes bras. Parce qu'au tout début, j'ai fait une interruption volontaire de grossesse. Je devais avoir 21 ans. C'était choisi, ça a été soutenu avec mon compagnon, donc, qui est aujourd'hui. On est toujours ensemble. Ensuite, Lou est venu parmi nous, c'était en 2016. J'avais 25 ans. Et à cette époque-là, j'avais très très peur des effets de la péridurale, parce que quand j'étais petite, j'avais eu une intervention, on m'avait opéré des amygdales, et ça c'était extrême, c'est que dans mon dossier médical, il n'y a absolument rien de noté. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mis à part que mes parents ont vu le chirurgien recouvrant les vides, et voilà, et un truc qui devait durer 30 minutes a duré plus de 3 heures. C'était très flou et donc moi j'ai intégré que les anesthésies, fallait que j'y fasse très attention et que je m'en préserve le maximum. Donc, Lou s'installe un peu par surprise. On prend le temps de réfléchir, est-ce qu'on se sent les capacités d'accueillir ce petit être parce qu'on a 25 ans et autour de nous, personne à 25 ans n'a d'enfant. Je me souviens, mon conjoint travaillait à Tarbes à ce moment-là. Il faisait des allers-retours, travaillait la semaine et revenait le week-end. Et je l'ai eu au téléphone au moment où je faisais le fameux test de grossesse. Et c'était un peu le OK, alors le test est positif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'était là. Je suis pas prête. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il travaillait dans le bâtiment avec des personnes avec qui il s'entendait très très bien. Et je crois que c'était le jeudi. Et je crois qu'ils lui ont dit, bah, fais tes affaires, rentre à Toulouse et voilà. Prenez le temps de vous retrouver et de voir ensemble. Voilà. Et donc, je me souviens, on a pris un temps de discussion et sur ce, on finalise avec le fait que, oui, en fait, on va accueillir ce bébé. je me souviens avoir pris une photo. Je suis mais lumineuse. Je l'ai partagée sur Facebook, mais j'ai rien mis du tout. Et c'était juste en souvenir de. En fait, là, on a fait le choix. On a intégré qu'on allait devenir parents. Et j'adore cette photo. Voilà. Dans mon souvenir, parce que pour sa date, hein, 2016. La grossesse se passe plutôt bien. Le seul truc que j'ai, c'est des insomnies, sachant qu'en plus, je ne travaille pas à l'époque. J'avais commencé à faire des démarches pour créer mon entreprise de modelage ayurvédique. Donc, venir prendre soin des gens, c'était déjà là. Et sauf que pour me mettre à mon compte, il fallait que je fasse un stage avec la chambre des métiers. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais c'est ça. Vous montiez, attendez d'avoir votre bébé, vous ferez les trucs plus tard. Donc j'ai écouté, ça allait très très bien. Donc c'est pas grave si je me réveillais de 2h à 5h du matin, puisque je pouvais dormir le reste de la journée. Ma chienne était ravie, comme ça on pouvait aller faire une balade nocturne, ça lui plaisait. Avec cette peur des anesthésies, je savais, en fait j'étais un peu. Je savais pas trop vers où chercher, ni quoi, ou qu'est-ce. Et en fait, le patron de mon conjoint à l'époque, avec sa femme, ils avaient eu un bébé peu de temps avant et ils étaient passés via un plateau technique. Et donc, je me dis, bah, on va y aller, parce que techniquement, enfin, ils m'avaient expliqué comme quoi il n'y avait pas de péridurale et que, voilà, elles accompagnaient là-dedans. Moi, je fais, oh, bah, go, on y va! Et le contact se fait très très bien, on arrive juste on time. On prend la dernière place du mois parce que, enfin, aucune information. Oui, je suis à 3 mois de grossesse. Oh, on va voir s'il nous reste de la place. Finalement, tout se goupille très très bien. Et je sais que je fais le choix pendant cette grossesse de ne pas du tout me renseigner sur, on va dire, prendre des renseignements extérieurs parce que je me racontais que j'allais être biaisée, en fait, dans cet enfantement par d'autres croyances, d'autres choses. Et j'avais totalement confiance en ces sages-femmes. Et donc, je me suis dit que je veux des informations qui ne viennent que d'elles. Et c'était. Et aujourd'hui, enfin, ça permet vraiment d'apaiser parce qu'au final, il y a eu des interventions. Qui ne correspondent plus, on va dire, à comment je souhaite vivre un enfantement, ce qui a donné l'accompagnement et la grossesse de Robin que j'ai choisi. Mais c'est très soutenant dans le sens où c'est un choix éclairé, dans le sens où, enfin, pas vraiment éclairé, mais c'était vraiment un choix de je reste focus sur les sages-femmes parce que ça me préserve de ce que je me raconte de d'autres choses. Donc, les cours de préparation, mon conjoint vient à tous les moments, il est quand même vraiment intégré. Voilà, les sages-femmes lui parlent. Donc, il y en avait trois sages-femmes au plateau technique. Donc, c'était forcément l'une des trois qui serait présente au moment de la naissance. Et voilà, donc on arrive à la fin de la grossesse. J'ai zéro contraction de toute cette grossesse-là. On arrive à la fin de la grossesse, à la fameuse date. J'ai envie de dire de péremption selon le paramètre médical. Et donc, on me dit, bah, le lendemain, vous allez faire une écho, donc une quatrième écho, pour voir où en est bébé, où en est le liquide amniotique et tout. Donc, on va voir, on fait une écho avec une sage-femme, où c'est très cocooning, en fait. C'est pas une table, c'est un lit où le papa s'installe. Ensuite, il s'installe sur le papa, et ensuite, on peut faire une danse très chaleureuse. Et cette sage-femme nous dit que il n'y a pas assez de liquide amniotique Et elle me demande, parce qu'elle connaissait les femmes, les sages-femmes du plateau technique, si je peux leur donner le, je peux lui donner, pardon, le numéro d'urgence qu'on contacte uniquement quand on est en train d'accoucher, parce que faudrait que les choses s'accélèrent, quoi. Parce qu'elle, elle n'est pas du tout alignée avec le fait que Lou autant de liquide qu'elle le souhaiterait dans mon ventre à ce moment-là. Et donc le lendemain, l'une des sages-femmes vient à la maison avec une potion magique, donc à base d'huile essentielle. Et je crois que moi je devais acheter de la purée d'amande blanche et du nectar d'abricot, donc le truc pour donner plein d'énergie. Et en plus, c'était plutôt bon dans l'idée de déclencher l'accouchement. Ce que moi j'accepte parce que je ne me suis pas du tout renseignée si j'étais au final d'accord ou non. Enfin, j'ai pas eu cette question. Est-ce que peut-être que je l'ai eu, mais pour moi, il n'y avait pas de. Je voyais pas, puisqu'on me le proposait, en fait, je ne voyais pas pourquoi je dirais non. Voilà. Et donc j'ai bu cette potion magique qui a super bien fonctionné parce que donc je devais la boire sur 4 heures, donc de 9h à... Oh, 3 heures, pardon, de 9h à midi. Et effectivement, à 13h, première contraction que je ressens de toute cette grossesse. Donc effectivement, ça marche bien les plantes. Et donc là, on était... La sage-femme était repartie chez elle. Elle nous a dit, vous m'appelez quand vous avez des contractions toutes les 5 minutes. Enfin, je dis 5 minutes, mais peut-être un peu moins. Je m'en souviens plus trop. Bref, en tout cas, il y avait une référence à avoir avec l'heure et le temps des contractions. Je me souviens, je l'ai noté sur un post-it. Je crois que je l'ai pas gardé ce post-it, mais il était juste mythique parce qu'au début, tu vois, j'écris bien. Et à la fin, en fait, tu vois les chiffres qui tremblotent. Ok, j'arrivais même plus à écrire. C'est peut-être le moment d'appeler la sage-femme. On appelle la sage-femme. Elle nous dit qu'elle arrive dans l'heure qui suit. Là, je me souviens que j'ai des moments où j'ai très très chaud, ou des moments où j'ai très très froid, j'alterne et c'est très très inconfortable. La sage-femme est là, elle me dit, bah, écoute, on peut te faire couleur. Ben. Et je me dis, oui, effectivement, comme ça, j'aurai moins chaud quand j'ai chaud et moins froid quand j'ai froid. Ce qui a été une très bonne idée. Donc, il m'accompagne vers la salle de bain au canapé. Et là, il y a plein de liquide qui sort d'entre mes jambes. Et la sage-femme, elle fait, super, tu viens de perdre la poche des os, c'est génial, ton bébé avance. Je fais, non, je viens de te pisser dessus! Il y en avait plein sur les pieds! Mais non, c'est le liquide amniotique. Tu es en mode, tout va être bien, on y va, on va dans la salle de bain. Donc, je vais dans la salle de bain, je vais dans cette baignoire, et effectivement, ça va beaucoup mieux. Je me mets à quatre pattes pour verbaliser et accompagner ces contractions. Et dès que la contraction est passée, je me re-rallonge dans le bain. Et elle me demande si elle peut m'examiner. Je lui dis oui. Pareil, parce que si elle propose, c'est que c'est ce qu'il y a à faire. Et là, elle me dit 3 cm, ça va bien, hein, ça avance bien. Voilà. Sachant que leur protocole pour partir à la maternité, c'est 4 cm de dilatation. Ça aussi, à l'heure actuelle, ça me fait rire parce que. J'ai vu qu'au final, le col peut s'ouvrir et se refermer. En fait, y a pas de, c'est pas une ligne droite. On n'est pas des logiciels qui vont d'un point A et d'un point B. On peut tourner, traficoter dans tous les sens. Bref. Et là, en fait, il y a mon son, mes vocales changent. Dans le sens où là, c'était plus, au début, c'était plus des oh pour accompagner ce qui était là. Et là, on vient avec un son qui est plutôt. Oh tu vois, bon son, bien de puissance qui vient de bien loin. Alors là, sage-femme revient en mode est-ce que je peux à nouveau t'examiner? Donc ça fait 5 minutes à peine qu'elle m'a fait une première auscultation. Et effectivement, je suis à 8 cm. Donc là, c'est panique à bord. Je l'entends, elle sort de la salle de bain, elle va voir Johan qui était sur la terrasse et elle lui dit, bon, là maintenant, on part. De suite. Branle-bas de combat. Je me souviens, il y a une. On avait donc on habitait au deuxième étage et sur le palier, on avait quatre autres voisins et un des voisins partait et revenait très souvent de voyage et laissait sa valise devant son entrée. Et donc la sage-femme se dit, ah, c'est la valise pour la maternité. Donc elle embarque la valise du voisin, descend et j'arrive en bas, moi, comme j'ai pu avec mes contractions. Et je fais, elle est bonne cette valise. Et là, j'entends Johan qui arrive en trombe et qui fait. Et je dis, Johan, c'est pas la valise. Et donc, il remonte. Moi, je descends. La sage-femme va à sa voiture. Et moi, je commence à me diriger direction notre voiture à nous, parce que c'était pas possible de rentrer dans... d'aller dans le même véhicule par rapport aux assurances. Et là, je sens que j'ai une contraction qui vient, sachant que depuis le départ, à chaque contraction, mon conjoint appuie, tu sais, sur mon bas du dos avec ses. Avec ses pouces, et ça me soulage énormément. Et là, je me dis, ok, c'est la première contraction que je vais vivre sans ce soutien-là. Donc, allez, ok, tu peux le faire. Et je commence à verbaliser, et là, j'entends. En fait, c'est Johan qui dévalait les escaliers et qui avait les sacs dans les trucs et qui balance tout. Et en fait, il arrive pour mettre ses mains dans mon bas du dos. Et on dit, voilà. Et donc, c'était bon. Et moi, je suis hyper sereine sur le chemin du retour parce que je me dis, bon, au pire, si bébé arrive, il y a la sage-femme dans la voiture juste derrière, donc on s'arrête, on fera un peu plus de bouchons parce qu'à 18h, en plein centre-ville de Toulouse, ben, t'as des bouchons. Et voilà, donc on se rend à la maternité. Finalement, Lou reste à l'intérieur. Et je me souviens, le seul truc que je me souviens, c'est que là, je suis vraiment sortie de ma bulle. Et j'ai comme ce besoin d'être vue dans ce que je traverse et cette vision des films, tu sais, avec la femme qui fait ah! Et donc je suis plus du tout dans ma. Enfin, c'est très particulier comme moment. Je dis aussi que j'ai envie d'aller aux toilettes, faut que je fasse caca. Je me dis, mais non, c'est ton bébé qui pousse sur ton rectum. Ah, mais il faut que je chie là! Donc, on m'installe sur les toilettes et cette position m'est vraiment très confortable. Donc, on me propose d'aller vers sur le fauteuil. Il y a une chaise en fait. La mère peut s'installer, une chaise en U, installée là. Et le ou la partenaire peut se mettre derrière, pour câliner ou englober la personne qui enfante. Et là, j'ai très peu de souvenirs. Très peu, je sais que j'arrive pas à la regarder, que je commence à parler et à discuter avec la sage-femme, avec mon chéri, à téléphoner avec ma sœur parce que elle est pas loin, voilà. Et là, en fait, il dit, je crois qu'on me parle du placenta. Et moi, j'étais plus. Alors, je sais pas si je savais pas ou si j'avais oublié, mais pour moi, c'était terminé la naissance. Et au final, mis à part le chaud-froid du début, quand j'ai commencé à faire des râles pour à faire avancer le bébé dans le vagin, je trouvais ça tellement facile, un truc de fou. Voilà, c'était « Oh, mais je peux faire ça autant que tu veux, il n'y a pas de problème !» En fait, quand vient le moment du placenta, là, j'ai très très mal. J'ai très très mal lorsqu'il naît. Surtout que je crois que j'ai une éraillure. Ouais, j'ai une éraillure et une coupure qu'on propose de recoudre. On me dit en fait que là, de toute façon, avec les hormones, je suis anesthésiée. Et en fait, j'ai super mal. J'ai vraiment très 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 mal. Donc Lou est là et j'arrive pas. Enfin, la connexion, le premier regard, le proto-regard n'est pas là. En tout cas, je n'arrive pas à me connecter à ce bébé. Et c'est quelque chose qui va énormément. Enfin, je vais beaucoup culpabiliser là-dessus. Et donc, vu que, entre guillemets, je me raconte que je suis une mauvaise mère parce que je ne suis pas capable d'aimer mon bébé, je bosse sur autre chose. Et donc, je me renseigne sur comment, on va dire, élever un enfant, comment bien faire les choses. Parce que moi, je suis née dans les années 90 en France. Et donc, la manière dont j'étais éduquée était classique, avec chantage, du récompense, des système récompense-punition. Et je ne voulais pas transmettre. Ok, tu veux pas faire ça, mais comment faire? Donc là, je sais que je tombe sur Catherine Guéguen, qui a été très, très, très soutenant. J'ai vu énormément de conférences sur elle. Et à l'époque, c'était Isabelle Filgueza. Je finis même à un moment donné par passer un CAP petite enfance pour me dire au moins je serai validée par la société pour être une bonne mère, puisque voilà. Voilà le syndrome de l'imposteur fois 10 000. Et je chemine avec tout ça, et Lou vient bien travailler sur plein de choses, déconstruire plein plein de choses. C'est un guide là-dessus, et en même temps, voilà. Je crois que je suis une bonne mission qui dure 4 ans, jusqu'à ce qu'elle commence à dormir, en fait. Et, enfin, non, elle savait dormir, mais dans mes rêves, comme ce que j'aurais aimé, et me reposer surtout. Et je ne trouve pas ma place. J'ai plus envie. Enfin, je ne trouve plus ma place en termes de travail, de métier. Voilà. J'ai plus du tout la flamme du massage. Ça m'intéresse pas. J'ai comme perdu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme si on avait balancé un gros seau d'eau dessus. J'ai plus du tout envie de masser. J'ai plus de joie. Je m'intéresse, je suis passionnée par tout ce qui est accompagnement éclairé de l'enfant et je me dis peut-être ouais, peut-être ASMAT. Puis après, je rencontre la communication non violente et là, c'est génial. Donc, je m'inscris à une formation, mais il y a 1 an et demi d'attente. Et un jour, ah oui, on passe aussi par l'instruction en famille, bien évidemment. Et un jour, je tombe sur un live de Julie Toutain qui parle de son métier de doula avec une autre doula. Et je dis, mais c'est trop drôle en fait, parce qu'elle raconte tout ce que je fais avec mes copines, enfin, donner des références, prêter des bouquins, faire des petits plats, voilà, faire des massages, de l'écoute empathique. Voilà, et je commence à dire, mais et si j'étais une doula? Et au moment où je dis ça, j'ai le bassin qui s'ouvre et qui s'élargit, j'ai une grosse chaleur dans le truc, je fais waouh! Et il y a cette phrase qui vient, c'est j'ai trouvé ma place. Et c'est tellement bon parce que quand t'arrives, parce que, enfin, voilà, j'ai à ce moment-là, parce que, ouais, 29, 30 ans. Et avec cette société où tu es un travail, un mari, une famille, un chien. Voilà, j'ai le chéri, j'ai le chien, un enfant, mais j'ai pas le travail. Donc voilà, ça fait énormément de bien. Donc je me renseigne, je mange des tonnes de livres, de podcasts autour de la naissance et je chemine et je rencontre un groupe Facebook. De naissance non assistée. Et l'idée de base pour moi, c'était je voulais y rentrer pour comprendre, on va dire, les besoins de ces personnes. Donc, je trouve ça hyper intéressant et qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'en arriver là? Voilà, par pure curiosité. Et ça me titille. Et au final, mon stage de communication en non violente arrive. Je fais cette semaine qui est juste extraordinaire, qui a révolutionné ma vie. Magique, puissante, riche. Et je sors de là et je me dis, mais en fait, je suis doula. Voilà. Avec l'outil de la CNV, on peut tout accompagner, en fait. Vraiment. Et je suis persuadée de ça. Et ce qui est très drôle, c'est que le lendemain, une connaissance m'appelle et me dit on aimerait que tu sois notre doula, on vient d'apprendre qu'on est enceinte. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Et je fais, mais c'est ah, alignement, c'est bon, tout est parfait. Donc c'est un grand oui du cœur. Donc je les accompagne, ça a été très mouvementé, très compliqué. Le sujet de du deuil est venu de plein fouet. Et après, j'accompagne une autre famille également. Et là, c'est vraiment lumineux. Ça vient nourrir plein, plein de choses. Et je viens comme vraiment clarifier sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Si jamais un jour un bébé vient s'inviter au creux de moi. Oh, ce teasing de fou! Et donc, on arrive début août.
Alors, donc nous sommes
Début août. Nous sommes début août et ce dernier accompagnement se termine. Et avec mon conjoint, voilà, on a été les années Covid et cette année tumultueuse qui a fait ses accompagnements. C'est pas tout rose, voilà. Et on se dit, ce serait peut-être bien qu'on se fasse accompagner, nous. On avait déjà essayé de voir une psy, mais ça n'avait pas fonctionné. Et là, une doula que j'aime beaucoup, qui a le podcast Naissance Authentique, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Propos de la communication quantique et de couple. Et ça me parle énormément, j'ai très envie de le faire, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je m'en parle à mon conjoint et là, oh, il n'en veut pas, il veut pas en entendre parler, c'est pas du tout son truc. Et là, je me sens tellement déçue, tellement triste, même en colère. Enfin, c'est moi, j'ai envie de faire ça. Et là, je sais pas, j'ai un tilt qui me fait. Ben oui, mais j'ai le droit d'avoir envie et je vais me l'offrir, voilà, parce que je vais me faire accompagner, moi. Il veut pas, très bien. Moi, je vais me faire accompagner. Et au final, je crois que c'est l'une des premières fois où je me mets. Où je choisis de prendre soin de moi pleinement parce que j'en ai besoin et que j'ai pas à me justifier, je suis légitime puisque j'en ressens l'envie et le besoin. Et c'est vraiment tu sais, j'ai cette croyance que les bébés ils viennent, leur âme vient avant de s'incarner dans nos ventres et je suis persuadée que Robin était venu me donner ce petit tilt que je choisisse de m'autoriser à me faire accompagner. Donc, comment ça? Et comme je disais, voilà, là, il y a vraiment. J'ai terminé mes accompagnements, mais pour le coup, j'ai même plus de demandes, même plus de. J'ai plus rien du tout. C'est vraiment le calme plat. Et j'ai cette réflexion. Bon, en fait, ce serait le moment idéal pour faire un bébé, dans le sens où je peux vraiment me concentrer sur moi. Mais c'est sous forme de blague, dans le sens où on sait très bien que dans le couple, ça va pas très bien, donc on va peut-être pas faire un bébé maintenant, mais bon, je le dis. Et l'univers nous entend et répond à nos demandes et à nos blagues. On s'installe fin août. Dans mon ventre, pareil, un peu en mode surprise, même si c'est pas une surprise parce que, donc, en termes de contraception, moi je fonctionne avec la symptothérapie et mon conjoint, lui, pratique le retrait. Et ces deux moyens de contraception nous sont parfaitement convenus pendant. Un bon moment. Et là, lorsqu'on fait l'amour, je dis, mais en fait, là, on est pile poil dans mon champ de mire, là, si jamais si jamais il y a de fortes chances que je sois enceinte. Et au moment où on termine, il me dit, ah, c'était compliqué cette fois-ci le retrait. Je fais, ok, non, c'est bon, je suis enceinte, hein, c'est pas la peine de tergiverser, c'est sûr, quoi. Si... Tout est aligné, quoi. Effectivement, ça n'a pas loupé. 3 jours plus tard, je crois que j'ai des insomnies, que je n'ai jamais. Je suis un être qui dort très, très bien quand je ne dors que par moi-même, dans le sens où je suis pas. Où mon sommeil n'est pas perturbé par des réveils nocturnes d'humains plus jeunes. Et voilà, et contrairement à ce que je fais d'habitude, je fonce en pharmacie où je demande à mon conjoint de m'acheter des tests de grossesse. Là, j'en veux pas. J'en veux pas parce que j'ai. Oui, on s'écoute, on fait les choses par nous-mêmes, on a un lien avec nos corps. Attends, hop. Est-ce que tu voudrais pas t'aider un petit peu? Et donc là, non, j'en veux pas. Voilà, c'est cette phrase, c'est pourquoi l'extérieur me dirait ce qui se passe dans mon corps. Et je me dis, bah, de toute façon, au bout d'un moment, je vais bien savoir si je serai enceinte ou pas. Voilà, effectivement, mes règles ne viennent pas. Tu vois, il y a cette envie, voilà, de me faire confiance. En fait, c'est ça, cette grossesse, pour moi, c'est vraiment une opportunité de nourrir la confiance en moi-même, de me mettre en lien avec ce que mon corps me transmet. Et de devenir un peu comme travailler sur tout ce qui a été tous mes filtres, toutes mes peurs, toutes mes fausses croyances et ma légitimité, en fait. Voilà. Le premier mois, j'ai pratiquement pas de symptômes, mis à part l'insomnie. Et en fait, j'ai des amis que je vois et qui me disent, mais tu serais pas enceinte, toi? Alors, j'ai pas spécialement plus pris, même j'ai peut-être un peu perdu. Et je trouve ça magique et tellement soutenant, en fait, d'être vue dans l'invisible, comme ça. Au final, les appels pour les accompagnements de doula reprennent, mais ça matche pas. Tu sais, j'ai cette croyance que pour qu'un accompagnement se déroule au mieux, il faut que ce soit un grand oui du cœur pour la famille et également un grand oui du cœur pour la doula. Et voilà, soit ça se fait pas de leur côté, soit ça se fait pas du mien. Donc voilà, comme quoi tout est juste. Ouais, ça revient. Merci. Et là, les mots de grossesse commencent. C'est pas vraiment des mots. En fait, c'est une sensation globale de je suis exténuée. Je peux même pas descendre les escaliers de chez moi pour aller amener ma chienne dans le jardin. Voilà, c'est. Si je le fais, je ne peux plus me lever pendant les 24 prochaines heures, quoi. C'est très, très, très intense, très très compliqué, et ça va être ça pendant tout le premier trimestre. Et même si il y a des moments où j'ai pu arriver en disant oh, fais chier, j'en ai marre, je le prends comme un cadeau de la vie en me disant en fait là t'as pas le choix, tu dois prendre soin de toi. Voilà, c'est tu te fais chouchouter, tu te fais coucouner, t'arrêtes de faire les choses, tu pulses soin. Ouais, on s'occupe de soi. Et je me dis que le deuxième trimestre, ça sera un peu plus doux. Effectivement, c'est un peu plus doux du point de vue physique, mais clairement du point de vue émotionnel, ça va être intense. En fait, je vais par exemple avoir l'occasion de travailler sur ma pose de limite. Il y a un événement qui vient, mais un tout petit, tu vois, très léger, du style la caissière qui me dit un mot qui m'est pas confortable. Tu vois, c'est un tout petit truc. Et je dis rien. Puis ensuite, ça va être un truc un peu plus gros comme une personne dans la rue qui se pousse pas alors que je suis enceinte et que je suis avec ma fille et qu'on est sur une partie du trottoir et qui prend toute la place et qui voilà. Donc tu vois, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Puis ensuite ça en fait ça gradue. Il y a trop d'événements qui viennent et jusqu'à ce que y ait on va dire par on est très en lien avec nos voisins et on est ça se passe très très bien et à un moment donné Lou joue dans la cour qu'on a en commun et Robert 75 ans je crois il fait pété et en fait il lui fait une tape sur les fesses. Lou, elle se fige et elle me regarde un peu hébétée. Et moi, en fait, je suis intérieurement, je suis glacée. Et donc, toujours cette histoire de pose de limite, et sauf que je n'arrive pas à le verbaliser. C'est très compliqué pour moi. Et donc, comme je disais, voilà, toujours cette histoire de pose de limite que je prends pas le temps d'aller rencontrer pleinement. Là, je me dis, ça suffit, je veux pas un truc plus gros, là. On va aller travailler ça, soit en communication quantique, soit en maïeutésie. Enfin, vraiment, c'est une grossesse libre. Et pas, j'ai pas, je, enfin, je choisis rarement le terme autonome parce que, non, j'étais pas seule. Parce que j'étais accompagnée par plein de personnes qui n'étaient pas du milieu médical, ou s'il y avait une sage-femme du milieu médical, mais qui, elle, me faisait que de l'acupuncture. Et donc, je prends le temps de travailler ce besoin de pose de limite. Et de suite après, pouf, tout s'apaise. C'est comme si je upgradais, tu vois, comme si j'avais passé un niveau supérieur. Et tout s'apaise et je passe les 3-4 jours suivants très, très détente. Et j'ai l'impression, tu vois, que la grossesse est très facile. Et en fait. De nouveau, il y a un autre truc à travailler. Alors, tu vois, on a fait la pause de libido, on a fait la relation avec le corps médical, on a fait la relation avec ma famille, on a fait la. Je n'ai pas arrêté. De toute la grossesse, ça a été une constante invitation. Enfin, c'est même plus une invitation, là, c'est limite, j'avais plus le choix. C'est soit tu fais, soit t'en chies. Et on arrive. À la fin de. Alors, j'allais te dire qu'on arrive à la fin de ma grossesse, mais j'aimerais quand même partager un moment qui a été très intense. On arrive à la fin du deuxième mois. Enfin, tu sais, c'est le moment où il faut faire la déclaration de grossesse. Et j'avais enfin trouvé une sage-femme qui était d'accord de faire la déclaration de grossesse sans échographie. Et la veille de ce rendez-vous, la veille ou l'avant-veille, je vais à un stage, un CNV qui est très très remuant, qui vient remonter plein de choses. Donc je suis vraiment pas, enfin, je suis pas au clair avec mes émotions, je suis pas paisible du tout. Et avec mon conjoint, on se dispute, c'est très tendu. On se rend finalement donc le lendemain au rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, elle propose que l'on. Est-ce qu'on a envie d'écouter le cœur du bébé? Et moi, intérieurement, je m'étais dit non, je ne veux pas ça. Je m'étais préparée, oui, si jamais elle me pose la question, je dis non, parce que je ne veux vraiment pas, je veux qu'on me laisse tranquille. Je sais, en plus, je viens de sentir des mouvements au creux de mon ventre. Donc, c'était, on va dire, la première clarification de oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre et un petit être qui bouge. Et voilà, mon conjoint s'amusait à me dire bah, c'est faux, hein, t'es pas du tout enceinte, tu as un monsieur, un qui, ceux qui connaissent le Spark, qui est coincé. Et donc, au moment où elle pose la question, bah, je fais oh, et puis merde, hein. Je vais lui dire oui, comme ça, il va entendre le cœur du bébé, et comme ça, mon conjoint, il va arrêter de m'embêter. Voilà. Parce que ça venait quand même... C'était quand même inconfortable, vu que je travaillais sur ma légitimité, d'entendre ce genre de blague.
Et comme l'univers est tellement bien fait, eh ben on n'entend pas le cœur du bébé. Et là, en fait, j'ai l'impression de me glacer. Je deviens livide. La sage-femme me dit, mais tu sais, hein, mon matériel, il n'est pas extra. Tu n'es qu'à 3 mois de grossesse, c'est normal. Ouais. Je suis même... Enfin, j'ai l'impression d'être déphasée, quoi. Et je me raconte, en fait, que je ne suis pas enceinte, que je me suis fait tout un film, que je suis en train de me faire un énorme cancer de l'utérus, que c'est... Bref, c'est n'importe quoi. Et la sage-femme me demande, bon, je sais que tu ne veux pas faire d'échographie, mais si jamais tu changes d'avis, est-ce que tu as le contact de quelqu'un? Je fais oui, ben, la sage-femme avec qui on était pour la naissance de Lou, elle s'est formée en écho, et donc on pourra l'appeler, quoi. On sort de là, je hurle, je crie, je pleure, mais ça va... Enfin, vraiment, je suis pas bien, sachant qu'en plus, Lou était là. Donc Lou a tout vécu, tout entendu. Donc d'abord, moi, j'avais besoin de sortir tout ça, et ensuite, on a un peu déposé avec Lou. Et là, dans la voiture, je commence à prendre mon téléphone. Je fais, faut que j'appelle la sage-femme, faut que j'appelle la sage-femme. Et là, mon chéri fait, attends, attends. Ça fait des mois que tu me dis que tu ne veux pas du tout faire d'écho, pour toutes les raisons d'impact que ça peut avoir sur le bébé et sur ton corps. Et là, t'es pas bien, dans le sens où, est-ce que c'est le bon moment de prendre une décision, une telle décision, parce que ça a vraiment de l'importance pour toi? Et là, ces mots, ils me font tellement du bien. Tu vois, juste le fait qu'il ait comme pris un miroir en me disant, regarde-toi, regarde ce qui t'est juste. Et là, ça, c'est venu apaiser. Ouais, effectivement. C'est pas maintenant que je vais prendre une décision. On rentre à la maison. Je me dis, je vais faire une sieste, ça va faire du bien. Et le truc, c'est que mon conjoint doit repartir travailler. Et j'arrive pas à m'endormir. Et là, dès qu'il part, la tempête émotionnelle reprend. Et là, je me dis, ok, non, faut que j'appelle la sage-femme. J'appelle la sage-femme, elle me dit, pas de souci, je te prends ce soir entre deux patientes. Enfin, elle comprend de suite le caractère urgent. Et dès que je raccroche, je m'apaise et je me dis, ok, c'est la bonne chose. C'est ce que j'avais besoin, en fait. J'ai besoin de ça. Et c'est en ça que... Pour moi aussi, ça reste une grossesse libre parce que j'ai la liberté d'aller piocher ce qui m'est juste, que ce soit du paradigme médical ou non. Voilà. Donc, on va faire l'écho. L'écho, donc, pas trop de suspense, il y a un bébé. Et sur le moment, en fait... j'ai pas du tout la sensation d'être rassurée. En fait, c'est OK, ça s'arrête. Cette phrase qui vient, c'est ça peut s'arrêter. Cette tornade intérieure s'arrête, il y a un bébé. Pour moi, il y avait, en fait, c'était soit il n'y avait pas de bébé et effectivement j'avais un problème du point de vue médical, soit il y avait un bébé mais il était en parfaite santé. Alors ça, j'avais aucun doute là-dessus. Vraiment. Il n'y avait pas un bébé décédé, il n'y avait pas de. Non, il allait très très bien. Au moment de l'écho, voilà, moi, dans mon idée que je me faisais cette échographie, c'était on place, je sais pas comment ça s'appelle, le capteur ou la partie qu'on met sur le ventre. On voit s'il y a un bébé ou pas. Et si on voit un bébé, ben, c'est bon, on arrête, quoi. Et au final, en fait, ça s'est transformé en une échographie en T2, quoi, en deuxième écho, où on vérifie les organes, les machins. Et pff, pour moi, j'ai pas apprécié.
Non, j'ai chaud.
C'est chaud? Ouais, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas confortable. Et à la fin, je me souviens que elle essayait de regarder au niveau des fesses de Robin pour vérifier si c'était bien finalisé. Et là, j'ai sorti, non mais Non, mais si, il a réussi à faire des deux reins, un cœur, je pense qu'on s'en fout un petit peu de sa défaite, quoi. Et bon, je pense qu'elle a compris que j'étais pas très confort, donc elle arrête. Et on la remercie vraiment chaleureusement parce que enfin, j'avais besoin que ça s'arrête. Et là, à partir de là, ça a été très compliqué pour moi. Moi, j'ai compliqué. On essaie de faire autre chose.
Mais ça a été un moment difficile pour lui aussi, hein. Il a bien senti tout ce qui a été tendu pendant cette période, parce qu'en fait, j'ai toute une partie où j'ai eu du mal à me remettre en lien avec mon corps, parce que ça a été un manque de confiance très violent, très dur que je me suis fait à moi-même. Et donc, revenir vers ce bébé, ça a été un long processus, et heureusement que voilà, je m'étais entourée de deux doulas et de toutes les personnes qui m'accompagnent aussi autour, que ce soit en énergétique, comme j'ai dit, en maïeutésie, en communication quantique. Quoi dire d'autre? Il y a ma tête qui va avec les pleurs de Robin, là, c'est pour ça que c'est un peu. J'arrive pas à être là. On va essayer une dernière chose. Je vais essayer de me mettre en portage avec lui. Je me raconte, ça va peut-être l'aider.
Allez. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette grossesse. Durant le 8e mois, ça a été de nouveau très très intense parce que là, cette fois-ci, l'univers m'envoie une invitation de travailler ma position vis-à-vis de la mort sur un délai d'une semaine. J'apprends 5 décès, dont le décès d'un bébé à la naissance. Et c'est très remuant et ça me donne l'occasion de vraiment voir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je ne veux pas? Et je trouve ça très riche dans ce que je veux vis-à-vis de. Voilà, on parle de comment ça s'appelle, d'hémorragie de la délivrance, on parle de. Voilà, et c'est vraiment dans l'idée de. En fait, j'ai pas envie que des mains externes viennent forcer mon col pour aller récupérer. Des petits bouts qui pourraient rester à l'intérieur de mon utérus. J'ai vraiment pas envie de ça en fait. Et je suis vraiment alignée avec le fait que ben en fait, la mort, c'est pas prévisible. Quand elle doit arriver, elle vient. Et comment faire pour que mon passage à la mort soit aligné, tout comme mes différents passages de vie. Et c'est de nouveau un enseignement très très riche et qui vient apaiser plein plein de choses. Et je conclue ce 8e mois avec un magnifique blessing way, avec des personnes qui me sont très soutenantes, mes doulas, mes amis. Ça fait du bien d'être un peu le centre d'autant d'attention, de soutien, d'amour, de bienveillance. On a créé un groupe WhatsApp. Ah, oh, qu'est-ce que ça peut aider les groupes WhatsApp? Et c'est vraiment, je le prends vraiment comme une safe zone où je peux me déposer, où je peux parler de ce qui me traverse parce que, ben, encore une fois, je vais avoir des choses à travailler jusqu'à la fin de cette grossesse et de pouvoir le déposer quelque part de bienveillant, où il n'y aura pas de jugement et vraiment dans un espace d'amour et rempli de chaud doudou, ça fait du bien. Je crois que c'est le 1er mai, je perds mon bouchon muqueux. Alors je me souviens, je retourne dans le livre de La naissance sans BD de Lucille Gomez, parce que je me souviens qu'elle avait écrit. Alors j'ai essayé de dessiner un bouchon muqueux, mais c'est très particulier, donc je fais plusieurs tests. Et effectivement, ça ressemblait à peu près à ça. Et donc, j'en parle avec mon conjoint, il me demande ça signifie quoi? Et je lui dis, ben, en gros, rien, mis à part que ben, mon corps se prépare à ce qu'on accueille notre bébé, quoi. C'est... On n'a jamais été aussi proche d'une naissance depuis le début. J'ai l'impression de partir un peu dans les étoiles. Je suis comme altérée pendant les 2, 3 semaines qui vont arriver. Et donc Robin est né le jeudi 19. Et donc le samedi d'avant, je tombe malade, mais très malade. Une gastro atroce. Et ce qui est le plus compliqué, c'est que j'ai très, très mal aux jambes. Comme si on me lacérait les jambes au couteau. C'était l'horreur. Et je me suis dit, bon, en fait, je vais peut-être aller à l'hôpital juste pour avoir une péri, juste pour ne plus ressentir mes jambes. Ça pourrait être utile. Donc finalement, avec des massages et du repos, ça passe très vite. Et. Donc la dernière semaine, j'avais un planning, on va dire, un peu chargé. Le lundi, j'avais un dernier rendez-vous avec Magali pour faire de la communication quantique. Et le sujet abordé, c'était ma relation avec le monde médical. Ça a été très intéressant et j'en suis ressortie vraiment apaisée dans le sens où, bah oui, évidemment, si jamais j'ai besoin d'aller voir un gynéco, une sage-femme ou aller aux urgences, bah, ou que j'ai envie d'avoir une césarienne, bah, évidemment que je vais y aller. Voilà. Et si j'en ai pas envie, ben, évidemment que tout se passera bien. Voilà, ça fait tellement bon. C'était tellement bon. Le mardi, j'avais rendez-vous avec la sage-femme acupunctrice dont je t'ai parlé, parce que j'avais donc trouvé une sage-femme qui était OK de me faire une déclaration de naissance a posteriori. Elle m'a dit qu'elle était OK si jamais comment ça s'appelle elle était de garde, mais si ce n'était pas le cas, enfin, si ce n'était pas le cas, elle ne viendrait pas. Mais par contre, je n'avais pas de sage-femme pour le postpartum. Donc, je fais cette demande à cette sage-femme qui fait de l'acupuncture et qui me dit oui, bien sûr, je viendrai pour le postpartum, et ça vient vraiment m'apaiser. Le 18. Mon conjoint a une soirée de Noël le 18 mai, hein, on est bien d'accord. Le 18 mai, mon conjoint a une fête, un repas de Noël d'entreprise qu'il n'avait pas pu faire. Et donc, je sais qu'il va s'absenter. Et pour moi, c'était très clair que notre bébé, donc petit panda, naîtrait quand son père sera là. Donc, j'étais plutôt confiante là-dedans et en même temps. Je savais pas au final s'il allait arriver. Enfin, tu vois, c'était un peu flou dans le sens où lundi, mardi, j'étais certaine de pouvoir aller à mes rendez-vous. Et mercredi, ça venait un petit peu, je sais pas trop de quoi l'avenir est fait. J'avais également un massage le vendredi 20 que je n'aurais pas finalement. Et quand j'avais pris ce rendez-vous, ma doula m'avait dit non, mais s'il faut, t'auras accouché à ce moment-là. Bon, oui, bon, après, hein, c'est bon, hein, 19 mai, 20 mai, il peut arriver en juin, voilà, on a le temps. Je voulais pas me focaliser sur une date, je voulais même pas, même si je savais exactement quand est-ce qu'il avait été conçu, pour moi, c'est pas un plat picard, voilà, il sort pas, enfin, il est pas prêt au bout de 2 minutes 30, voilà, c'est pas, il n'y a pas de taille, il aura son temps de gestation qui lui est juste, voilà. Voilà. Donc, mon conjoint part à sa soirée. Et le soir, j'ai pas du tout envie de cuisiner. Je suis fatiguée. Je veux faire les choses tranquilles. Je me dis, ben, on va aller acheter. On va se commander chinois, pas très loin de la maison. Je prends la voiture et au moment où je prends la voiture, je fais ah non, c'est la dernière fois que je prends la voiture, c'est trop inconfortable, c'est chiant, j'ai plus envie de prendre la voiture. On va au restaurant récupérer les plats emportés et là, à ce moment-là, je propose à Lou, est-ce que tu veux une boisson, tu vois, un petit peu festif, est-ce que tu veux du jus de litchi? Voilà, pour faire un peu un petit bonus, pour se faire plaisir. Et là, elle me dit non. Parce qu'elle ne ferait jamais en temps normal. Elle me dit jamais non pour une boisson sucrée. Et on s'installe dans la voiture et là, elle vomit. Et tu sais, je te disais que j'étais un peu à l'ouest pendant toute mai, un peu, voilà. Et là, je suis retombée direct. Pouf! Comme si je m'étais réveillée d'un coup. Ok, non, là, ça ne va pas. Lou est malade. Voilà, faut être dans le concret, faut être dans le faire. Là, c'est plus le moment d'être dans l'être et d'accueillir ce qui est vivant à l'intérieur. Non, là, tu fais, tu nettoies, tu te... Voilà, tu... Donc on rentre à la maison et là s'enchaînent des heures d'accompagnement, de vomi, de nettoyage, de... Pff. Voilà, c'est assez intense. Et je crois que c'était vers 23h, minuit, j'appelle mon conjoint et je lui dis, écoute, là je suis très fatiguée, il y a la chienne à sortir, il y a Lou qui est pas bien, en fait, ça serait bien que tu viennes, quoi. Et il me dit, bah, écoute, notre soirée d'entreprise avait commencé à 13h, donc c'est en train de se terminer. Je ne peux pas venir de suite parce que bah, j'ai bu, mais je vais pas tarder à arriver. Donc moi, je suis rassurée. Il arrive, je crois qu'il est 4h du matin, et donc là, moi, à 4h, je peux aller vraiment me coucher, me reposer et lâcher prise sur lui. À 8h, le réveil sonne pour que lui parte travailler. Et là, je me lève pour lui demander un peu comment s'est passé le reste de la nuit. Et en me levant, je sens des gouttes qui s'échappent. Et je me dis, tiens, mince, c'est quoi? C'est du pipi, c'est du liquide amniotique. Je vois pas trop de couleurs. Donc, je décide de me rendre dans la baignoire et d'uriner. Et là, la couleur est très différente. Donc, dans la baignoire, c'est un liquide vraiment très coloré, alors que sur le sol, c'est vraiment très clair. Donc je me dis, ah, c'est peut-être la poche des os qui est fissurée, enfin il y a peut-être une membrane qui s'est fissurée, mais bon, je suis dans le doute, tu vois, pour moi c'est pas réel, c'est pas concret. Et là j'enjambe la baignoire pour sortir, après m'être rincée, et là de nouveau il y a du liquide qui s'échappe un peu plus, et je fais, ok, bon c'est sûr, j'ai fissuré. Donc je préviens mon conjoint, écoute, j'ai fissuré, et il me dit, ah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je lui dis, bah, écoute, bébé peut arriver dans 3 heures, comme dans 3 jours, donc va bosser. Voilà, va bosser, garde ton téléphone près de toi. Et voilà. Donc il part travailler, Lou reste quand même bien malade. Et à midi, je l'appelle, je lui dis, écoute, finalement, je t'appelle pas parce que je vais accoucher. Je t'appelle juste parce que là, il faut que je sorte la chienne, que Lou est toujours malade et que moi, je suis fatiguée de la nuit. Donc là, en fait, ça serait bien que tu sois là, quoi. Faut prendre le relais. Il rentre, il finit ce qu'il est en train de faire, il rentre et il sort la chienne et il commence à se préparer à manger. Et là, je vois sa main qui tremble. Et je fais, allez, moi, la semaine dernière, Lou, hier, ce serait pas toi, tu serais pas malade, toi aussi? Et mais oui! Donc, il s'avère que ben, il a 42 fièvres. Et qu'il est pas bien du tout. Donc je me dis, ok, il y a la chienne à sortir. Là, je me sens les capacités d'aller la sortir. Et je sais pas en fait qu'est-ce qui pourra se passer plus tard. Donc je fais le choix de la sortir maintenant. Et donc j'y vais, je sors et je crois que je fais la baleine canine la plus longue de toute mon existence. Tout est au ralenti. Tu sais, je me filme parce que je me raconte que je veux pas du tout regarder l'heure. Quoi qu'il se passe, je veux pas du tout regarder l'heure. Je veux pas avoir je veux pas faire fonctionner mon néocortex le moins possible. Mais je me dis, si je me filme, ça me permet de me déposer et en même temps, posteriori, je pourrais regarder l'heure pour savoir à peu près en termes de timing où est-ce qu'on en était. Et en fait, j'ai revu cette vidéo il n'y a pas longtemps et je suis à l'ouest. Alors que à cet instant-là, j'ai l'impression d'être très claire, d'être oui, mais c'est long, mais c'est parce que je suis fatiguée, mais j'ai de la clarté dans la voix, j'ai l'impression d'être vraiment présente. Alors que tu regardes la vidéo, tu vois que je suis mais complètement dans un autre monde. Je trouve ça tellement drôle. Donc j'arrive enfin à rentrer chez moi. Et en fait, au moment où en fait où je faisais cette vidéo, quand je termine l'enregistrement, je me dis, ouais, en fait, je suis peut-être en train de commencer à enfanter, en fait. Sachant que j'ai senti des contractions, et elles étaient depuis le matin, en fait, je sentais de temps en temps des contractions, mais c'était vraiment presque insensible. En fait, je sentais que ça se contractait à l'intérieur de moi. Il n'y avait pas de sensation de désagréable, vraiment pas. Et là, pendant la promenade canine, je crois que j'en ai senti deux ou qui m'ont demandé de m'arrêter. Mais pareil, il n'y avait pas de douleur, c'était juste. Ouais, là, en fait, j'ai besoin d'aller vers moi-même et de lâcher prise. Donc, je me dis, bon, allez, hop, la naissance a peut-être commencé, mais voilà, il y a des naissances qui durent 24 heures, donc c'est pas parce que c'est un deuxième que forcément ça ira plus vite. Bref. En fait, dernièrement, les récits de naissance que j'avais entendus d'amis autour de moi, ça a pris du temps, en fait. C'est la sortie du placenta, ça a pris du temps, la sortie du bébé, ça a pris du temps, enfin, c'est trop long, et donc j'avais pas envie de prévenir mes amis trop tôt. D'autant qu'au moment du Blessing Way, je leur ai offert à chacune une bougie. Je fais des petites bougies que j'ai appelées les Tefiti, voilà. Et ce sont des bougies d'une déesse enceinte magnifique. Et sauf que je me suis chiée dans la commande de la cire. Donc au lieu d'acheter une cire pour bougies à mouler, ce sont des cires à bougies à couler. Donc elles fondent beaucoup plus vite. Et donc j'avais calculé que ça prenait à peu près 8 heures pour la fonte. Et donc non, entre 5 et 8 heures, ça dépendait comment c'était. Mais en gros, voilà, j'allais pas les prévenir avant, parce que dans l'idée, c'était qu'elles allument la bougie pour me soutenir pour mon enfantement, et donc, fallait pas que je les prévienne trop tôt. Mais bon, je me dis, je les préviens, et au pire, je leur enverrai un message encore plus tard, pour dire que c'est bon, vous pouvez allumer vos bougies. Et donc là, voilà, je commence à conscientiser que c'est peut-être au final, soit pour aujourd'hui, soit pour demain, voilà. Je rentre à la maison. Et je commence à installer un peu la partie où je pensais enfanter. Dans mon idée, je serais dans le salon. Et ce qui se passe, c'est que on pratique la maternage proximal et le cododo. Et pendant les derniers temps, j'avais vraiment besoin d'être toute seule. Donc je m'étais installée dans la chambre d'amis avec plein d'affiches, d'illustration de naissance, et voilà, c'était mon havre pour la grossesse. Et il y avait certaines que je voulais avoir avec moi pour le moment de l'enfantement. Et donc, je suis allée décoller, installée dans le salon. Et ce que je fais, après, ce que je vais te partager, c'est je vais te partager des événements dont je me souviens, mais dans l'ordre dans lequel ils se sont passés, je ne m'en souviens pratiquement plus. Voilà, on est d'accord, hein? On part dans le vortex de la naissance, on n'est plus trop là. Donc j'installe tout ça. Je sais aussi que j'avais préparé des fiches, que ce soit sur comment prendre soin du placenta, parce que j'avais cette idée de faire un placenta lotus. J'avais aussi fait des fiches des personnes, des professionnels à contacter. Que ce soit dans le postpartum immédiat, que ce soit pour plus tard, ou que ce soit sur aussi, ben, si on a des soucis, que ce soit une conseillère en lactation, que ce soit une ostéopathe, voilà. Et une dernière fiche sur c'est quoi mes besoins pour cette naissance. Parce qu'au final, on n'avait pas vraiment pris le temps d'en discuter avec mon conjoint, voilà. Il y avait suffisamment d'événements à apaisé, on va dire, en amont, comme par exemple, j'avais fait un mail pour partager aux membres de nos familles qu'est-ce qui serait soutenant pour moi en postpartum, parce que j'étais vraiment assez traumatisée du postpartum que j'avais vécu avec Lou. Et ce qui a été très mal pris. Voilà, ça a été très dur à recevoir pour la famille, et donc ça a eu la. L'idée, on va dire, de générer pas mal de tensions. Bref, on revient là où on en était. Donc, je parle de cette affiche de qu'est-ce dont j'ai besoin pour la naissance. Donc, il la lit avec ses 42 fièvres, bien entendu. Et il me dit, mais comment je fais pour te donner à boire ou à manger si tu veux pas que je te parle? Je rigole un peu, je fais oui, c'est vrai, ça peut être un peu pas forcément des plus fluides. Et donc je lui dis, écoute, t'as qu'à me présenter les trucs dans la bouche. Et si je les prends, tant mieux. Si je les prends pas, tu me les représentes plus tard. Et j'avais fait de la tisane de feuilles de framboisier, j'avais un ocytocine cake de prêt, j'avais des boulettes énergétiques. Enfin, voilà, j'étais bien. J'avais tout ce qu'il fallait de prêt. Et à un moment donné, il me propose, bah, comme pour la naissance de Lou, est-ce que tu veux un bain? Et moi, dans ma tête, c'est non, mais le bain. Enfin, ça, le travail vient juste de commencer, donc ça va l'arrêter. C'est pas forcément le moment. Et après, je tombe sur cette illustration. Je crois que c'est Bonne nuit, mon ange, qui l'a faite, où tu vois une femme allongée sur un ballon et qui se repose entre ses contractions. Et en fait, je réalise que mais je suis carrément crevée. En fait, j'aimerais bien aller dormir. Et donc, si finalement un bain, ça peut calmer les contractions, limite les arrêter, ça me va très très bien. Donc, je fais oui, fais-moi couler un bain. Voilà, il fait couler le bain. Ouais, je crois qu'avant, voilà, avant, il me dit oui, il faudrait que j'aille sortir la chienne, et je le vois en fait, il va pas du tout sortir la chienne, il prend la direction de la chambre et il s'écroule sur le lit. Et donc là, je me dis ouais, il y a besoin de faire sortir la chienne, mais moi je suis plus capable de sortir. Je crois qu'il est vers 21h parce que c'est à l'heure où j'ai envoyé un SMS, enfin où j'ai pu voir sur le SMS qu'il avait été envoyé. Je contacte ma voisine qui faisait partie aussi des personnes présentes à mon blessing way. Et là, je dis viens, faut sortir le chien. Tu sais, j'ai même pas l'espace de faire un coucou, c'est moi. Là, je ne suis plus capable de sortir. Non, non, c'est viens. Et elle me dit oui, j'arrive de suite. Elle vient à pas de souris. Elle part avec la chienne, la laisse. Moi, je retourne dans le salon. J'avais aussi gonflé un ballon. Là, le temps. J'ai plus de notion du temps, j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 secondes au moment où elle revient, dépose la chienne, mais je sais que réellement il s'est pas passé 2 secondes, c'est juste que moi je suis altérée. Et elle parle un petit peu à Lou. Ah oui, d'ailleurs, Lou, je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle était quasiment tout du long de la naissance en fait. Voilà, jusqu'à ce que son frère soit né, je ne sais pas où est-ce qu'elle était. Je sais qu'elle était à la maison, mais entre si elle regardait un film, si elle dormait, si elle vomissait ou si elle jouait, je sais pas du tout. Donc elle dépose la chienne et en fait là je m'autorise à me dire ok c'est bon c'est fini maintenant je peux vraiment lâcher prise. Et je crois que c'est là où mon conjoint il me propose d'aller couler un bain. Ce que je fais pour accompagner les contractions quand je suis dans le salon c'est vu que je suis très fatiguée je m'allonge sur le côté dans le canapé et dès qu'une contraction vient je me laisse glisser du canapé. Sur le sol, on avait mis des coussins de sol, des serviettes. On avait 3 tonnes de serviettes que de toute façon, on voulait jeter. Donc, on a dit, on va les garder pour la naissance. Comme ça, on pourra directement tout mettre à la poubelle. Et je me mets dans cette position de demande en mariage avec le buste redressé. Et la contraction est tellement facile à vivre, en fait. C'est simple. C'est vraiment ces mots. C'est facile, c'est simple, c'est vivable, même bien plus que vivable, c'est confortable. Et dès que la contraction est passée, je me rehisse sur le canapé et je dors. Donc en fait, je fais que dormir entre chaque contraction. Donc à un moment donné, il y a ce bain que Johan me propose. Je me dis, ouais, ça serait pas plus mal que ça ralentisse et que je puisse vraiment dormir. Et je me glisse dans la baignoire et j'avais mis, pour éviter d'avoir la pleine lumière, des petites loupiottes autour du miroir. Et quand je m'allonge dans la baignoire, il y a le reflet sur les carreaux des loupiottes et ça forme un R. Sachant qu'on avait zéro prénom pour Robin. Sauf que quand j'étais enceinte de Lou, Lou, elle devait s'appeler soit Lou, soit Robin. Et en fait, quand je vois ce R, je me dis, en fait, c'est un garçon pour Robin. Mais je me dis pas que ça va être son prénom. Je me dis juste que c'est un garçon. Et voilà, je trouve ça incroyable. Je garde cette info, mais en même temps, je me dis, et en même temps, si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais je trouve ça rigolo. Et la baignoire est très, très inconfortable. C'est une toute petite baignoire. Vraiment. Et je suis vraiment très mal installée dedans. J'essaie de me mettre sur le côté pour avoir de l'eau sur le dos et un peu sur le ventre, mais je suis pas bien. Donc, je pense que j'y reste vraiment pas longtemps. Et là, quand je sors de l'eau, je suis déjà très fatiguée. Et en même temps, je pense que le travail s'intensifie. Et j'essaie de refaire mon mécanisme de allongée sur le canapé pour dormir. Et après, je me glisse sur le sol en demandant mariage. Mais je suis tellement épuisée que j'arrive même pas à redresser mon dos quand je me mets dans cette position. Un genou au sol et un genou plié. Et en fait, là, j'ai mal. Donc, pour la première fois de tous mes enfantements, je constate qu'une position qui n'est pas, entre guillemets, la bonne, en tout cas qui n'est pas la bonne qu'il me faut à cet instant, fait mal. Voilà. Et là, je me dis dans la tête, j'en ai marre, je veux dormir. Et je verbalise, j'en ai marre. Et au moment où je dis j'en ai marre, c'est comme une formule magique et tout s'apaise. La contraction, elle est là, mais c'est comme si je ne ressentais plus rien en termes de sensations, quoi. Et je fais, oh, c'est trop bien, bah, si je réessaye, j'en ai marre. Effectivement, de nouveau, plus rien du tout. Et je fais, ah, oh, c'est trop bien, je vais pouvoir dormir. Eh ben non! Une contraction revient, et là revient ce cri animal dont je t'ai parlé, que j'avais eu pour Lou, où là ça vient des profondeurs animales, et c'est des. Oh, pardon, mon bichou! Pardon, petit chat. Et je me dis, mais c'est pas possible! C'est pas déjà, en fait, ça vient de commencer. C'est trop tôt. Et là, j'appelle mon chéri. Enfin, pour moi, je veux que ça ralentisse, c'est pas possible. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir, quoi. Et j'appelle mon chéri, je fais, tu m'amènes tout de suite dans la baignoire. Donc, pour essayer de le faire le plus vite possible pour avoir le temps de me déplacer et qu'une contraction n'arrive pas, hop, plouf, dans l'eau, on se dépêche. Et là, mais forcément, cette baignoire est inconfortable au possible, j'arrive pas à me trouver une position et tout. Là, les contractions que j'appelle de. Ouais, pas de. Réf... Ouais, d'amener en fait ce bébé à l'extérieur reviennent avec ses râles profonds et puissants. Alors, il paraît que je broie la nuque de mon chéri. On se souvient pas. Là, j'ai cette sensation comme si on a balancé un sac de riz dans un cabas, tu sais. En fait, mon bébé vient de tomber dans mon périnée. Je suis surprise. Et encore, tu vois, j'ai cette phrase qui dit déjà. Ce qu'on avait... Là, ce qui me revient, c'est la dernière conversation que j'avais eue avec la sage-femme avec qui je faisais l'acupuncture, et on discutait du fait que je ne souhaitais pas faire d'écho. Elle, en fait, elle voulait savoir qu'est-ce qu'ils... Enfin, elle voulait être rassurée de si j'étais vraiment en pleine connaissance de à quoi pouvait servir une dernière écho, que je faisais en gros un choix éclairé de ne pas vouloir en faire. Et je lui ai dit que clairement pour moi, mais qu'il arrive par la tête ou par les fesses, il arrive. Et dans tous les cas, même à 9 cm de dilatation, ils peuvent encore se retourner, donc... Enfin, entre guillemets, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt de faire des coups. Et donc, je sens cette sensation de poum en bas. Et je me dis, ok, donc c'est soit sa tête, soit ses fesses là, qui viennent de d'arriver. Et je sens que ça pousse vraiment au niveau de l'anus. Et là, je me dis, c'est trop vers l'arrière. je pose ma main au niveau de ma vulve, donc je sens effectivement la grosse bosse, et comme pour inviter mon bébé à aller plus vers l'avant. Voilà, comme pour le guider de viens, viens plus par là. Voilà. Là, j'ai une autre contraction et la tête sort. Non, avant ça, non. Voilà, je m'en souviens, ça y est. En fait, entre le moment où il est tombé dans mon périnée et le moment où il est sorti, le temps s'est arrêté. Et j'ai senti comme si il y avait des pieds dans le fond de mon utérus qui prenaient l'élan pour plonger. Et donc, c'était très rapide. Dans le sens, dans ma tête, ça a été très rapide. Cet instant a duré dans ma tête, enfin, a semblé s'arrêter, tu vois, le temps s'était arrêté. Mais à l'intérieur de moi, je fais OK. Il va arriver par la tête et sa tête va sortir là. Et tu sais, il y avait aussi l'appréhension peut-être un peu du cercle de feu, de déchirer comme ce que j'avais pu déchirer auparavant. Et là, il y a cette sensation de confiance qui se répand partout dans mon corps. Et c'est OK en fait si je déchire. La dernière fois, tu sais, je t'avais dit que j'avais été recousue. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, ça a été très compliqué de reprendre des rapports sexuels, comme si j'étais trop serrée en fait, comme si ça me gênait. Et là, en fait, c'était OK de toute façon. Si je déchire, je déchire librement et mon corps est totalement capable de se réparer. Et si je déchire, de toute façon, mon corps a fabriqué ce bébé. Donc ce bébé est dimensionné pour mon corps et donc ça se passera bien. Et même si je déchire, c'est que ça se passe bien. Voilà. Et donc là, je sens cette impulsion. Robin sort sa tête. Et il est là, voilà. Et là, j'ai plus du tout de son puissant, ni ma pleine souveraineté, tu vois. Là, c'est plus des sons de presque choqués, de c'est intense ce qui se passe, c'est enfin, j'ai pas de contrôle. Ça, voilà, voilà, j'ai connu des réflexes d'éjection du fœtus, quoi. Parce que à la contraction suivante, pareil, la sensation que le temps s'arrête et je sens ses épaules pivoter, tourner, et là, fra! Il sort d'un seul coup, d'un seul. Il y a mon chéri qui plonge dans la baignoire parce que il n'avait pas envie que le corps de ce bébé percute le fond de la baignoire. Même si j'étais allongée sur le côté, une jambe repliée, donc il n'était pas, on va dire, orienté directement vers le fond de la baignoire, mais bon, voilà. Et il le rattrape. Là, moi, je me pose un peu contre la baignoire. Il avait posé une serviette de façon à ce que ce soit un peu plus confortable. Et il pose mon bébé sur moi. Et là, j'oscille entre... C'est fou! C'est fou ce qui vient de se passer! Et en même temps, il est là! Il est déjà là! Et il est tout visqueux et il est tout chaud et c'est incroyable et on rigole, on pleure et on est clairement ailleurs entre les hormones. En plus, Johan, tu rajoutes sa fièvre. On est complètement à l'ouest et là je sais pas, on entend très rapidement ma loup pleurer. Donc je dis, bah, écoute, va voir, offre-lui son cadeau, parce que en fait, on avait trouvé un cadeau avec loup, et elle voulait que je lui offre le jour de la naissance de Robin. Et donc je lui dis, bah, va lui attraper son cadeau, profites-en pour regarder l'heure. Il s'en va, il appuie, enfin. Il met la main sur la poignée de la salle de bain et là j'en profite pour regarder l'entrejambe de ce bébé. Et là je fais Chou, y a un pénis! Et là il explose de rire parce qu'il avait parié sur un garçon. Pour lui, la grossesse était tellement différente que ça ne pouvait qu'être un garçon. Et donc il va chercher Lou. Et au moment à peine il revient, moi je sens une contraction, mais aussi puissante que la naissance de Robin. Enfin, que pour celle de. Ouais, c'est un vrai réflexion. Réflexion, n'importe quoi. Un vrai réflexe d'éjection du placenta. Parce que. Ben en fait, le placenta de Robin est sorti au bout de 3 minutes. A été expulsé comme un boulet de canon. Pouf. Et là, tu vois, c'était de nouveau ce. Mais c'est pas possible. Déjà, ça veut dire que la naissance est finie, en fait. Ça y est, le placenta est là. C'est terminé. Tu vois, j'étais pas prête. Et en même temps, c'est OK, ça veut dire qu'il est là, donc c'est bon. Et voilà. Et là, je sais plus trop comment s'est organisé les événements, mais en gros, on a fait. Des empreintes placentaires, on a tendu un petit peu avec les poches du liquide amniotique sur un cercle à broderie, n'importe quoi, un cercle de broderie, voilà, pour tendre un petit peu. C'était très joli, malheureusement, il a cassé, mais c'était vraiment très beau. À un moment donné, j'ai eu comme des petites étoiles, tu sais, devant les yeux. J'avais eu ça 2 fois pendant ma grossesse et ce qui m'avait soutenue, c'était de manger du steak. Je dis à mon chéri, est-ce que tu peux aller me faire un steak? Et là, il me dit, non, pas là, enfin, sérieusement, là, je peux pas. Ben oui, il a toujours ses 42 fièvres. On peut plus. Il a pas dormi non plus la nuit dernière parce qu'il s'occupait de Lou. Enfin, il avait ses soirées. Et donc là, je me dis, ok, bon, là, il est pas dispo. Moi, faut pas que je déconne. Donc, je vais dans le saladier où on avait posé le placenta. Je mets la main dedans. Il fait nuit. Je prends un premier truc qui vient et ça vient très rapidement. Donc, à mon avis, c'était un Loki. Et je le mange. Et de suite, ça va beaucoup mieux. Je trouve même ça bon. J'étais très étonnée. Je savais que ça existait. J'y vais un petit peu en mode, bon, allez, c'est dégueu, t'avales direct, quoi. Non, ben là, pour le coup, c'était même bon. Et voilà, donc là je dis à mon conjoint, bah, écoute, là je me sens mieux, je m'allonge dans le lit avec Robin, j'ai à côté de moi de quoi boire, de quoi manger et de quoi téléphoner si jamais je sens que j'ai besoin d'appeler une aide extérieure. Et je dis à mon chéri, bah, écoute, va te reposer, va te coucher et on se retrouve un peu plus tard. Mais avec ça, moi je me dis que je ne me sens pas à l'aise de m'endormir. Voilà, il n'y a personne, entre guillemets, pour veiller sur nous, pour avoir cette vigilance-là. Donc, je préfère rester éveillée. Et vers 7 h du matin, je crois. Donc, Robin est né vers 23 h 50. Et vers 7 h du matin, mon chéri se réveille. Il prend Robin et là, je prends le temps de lâcher prise et de vraiment dormir. Et donc, on est le vendredi, le fameux vendredi où je devais me faire masser par une de mes doulas. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, on peut changer le rendez-vous massage femme enceinte pour visite postpartum. Et elle vient, c'est vraiment super. Elle vient avec une petite soupe qu'elle me donne à la cuillère. Elle masse les jambes, elle écoute un petit peu cette incroyable naissance rocambolesque. Et ça fait vraiment du bien, vraiment cette sensation de d'être maternée. Et c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Voilà, et là, pendant 4 jours, on est un peu hors du temps. Alors j'ai très mal parce qu'au final, j'ai des contractions pour que l'utérus reprenne sa taille habituelle, voilà, ces fameuses tranchées. Très, 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 très douloureuses. Alors, j'avais des infusions qui permettaient de soutenir, mais ça n'a pas fait effet à la hauteur que j'espérais. J'ai cette sensation de tête qui tourne, en fait, et je fatigue. Au bout du 4e jour, il y a les hormones qui descendent. Enfin, on se dispute en plus avec mon chéri, voilà, c'est pas. C'est vraiment pas confortable et j'ai comme envie de finaliser cette naissance. Je la raconte à d'autres amis. J'essaye de poser tout ça, mais c'est pas clair. Et dans la nuit, enfin le lendemain, on doit aller faire la visite des 8 jours qu'on avait fait, je crois, au sixième ou septième jour, je me souviens plus trop. Bref, et en fait, cette nuit-là, je remarque on a oublié de faire le soin du placenta, parce qu'il faut le faire toutes les 24 heures à peu près, et là qu'on n'avait pas pris le temps de le faire, donc je me sens, je vais le faire. Je fais le soin, c'est la première fois que je le fais en fait, habituellement c'est Yoann qui prenait soin du placenta de Robin. Et donc j'ai beaucoup de joie à le faire, je mets les petites fleurs, les plantes, les pierres, je referme, je le mets dans un pochon que j'avais fabriqué aussi. Et au final, au moment où j'installe Robin sur le lit avec son pochon et son placenta à côté, ben, je remarque qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. Et là, allez, à tout casser 10 secondes, j'ai l'impression de revenir à moi, en fait, de revenir, de m'ancrer. Et je me dis, en fait, c'est bon, en fait, ça y est, la naissance est vraiment terminée. Et ça fait du bien parce que c'était inconfortable de rester là-haut aussi longtemps. Voilà.
Waouh, j'avais fait exprès d'écouter aucun de tes partages parce que je voulais justement avoir ces sensations qui viennent toutes seules et j'en ai des frissons partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait tellement de bien. Ah, merci du coup d'avoir partagé tout ça parce que je pense que, encore une fois, ça va aider beaucoup de femmes. C'est hyper important. Et puis, et vraiment, j'ai trouvé ça magique de pouvoir partager aussi tous ces à côté, toutes ces sensations, toutes ces émotions et tout ce cheminement personnel qui est si important à faire. Et encore plus quand on décide de donner naissance chez soi je veux dire, entre guillemets, en autonomie, de façon libre. Donc, merci beaucoup.
Mais, tu vois, le point que je retiens de la puissance de ce choix de grossesse libre, c'est la connexion à mon corps. Parce que je crois que les derniers jours où j'étais enceinte, je pouvais sentir mon col de l'utérus. J'ai jamais eu l'élan de pouvoir sentir avec ma main, avec mes doigts, où est-ce que j'en étais. Mais juste en étant assise ou debout, je ressentais en fait où il était. Ça faisait vrai, une sensation de petit morceau de bois coincé. C'était pas forcément très agréable, mais je le sentais, quoi. Et je trouvais ça extraordinaire de pouvoir que je me sois en fait offert ça. Et d'être aussi en lien avec ce qui se passe en moi. Ça a été intense. Et en même temps, c'est juste waouh! Merci à moi, merci à Robin, merci à ma famille et merci à l'univers. Donc, merci aussi à toi, Perrine, d'avoir pris ce temps d'accueil, d'écoute et tous ces divers épisodes, on va dire, parce que pour le coup, on aura fait en 3 sessions.
Et moi, je n'ai pas de questions parce qu'en fait, je trouve que c'était voilà, juste magique. Et puis de te voir aussi, quand tu racontais, c'est très fort parce que tu y étais à nouveau. Et c'est ça que j'adore. Quand on partage des récits comme ça, c'est comme si on était là.
Ah, ça me touche, merci. Merci beaucoup de partager ce que tu as ressenti au moment de m'avoir écouté. Je me sens, ouais, mon besoin d'être accueilli, d'être vu, d'être soutenu aussi et de voir aussi la beauté de ce qu'il y a en moi. C'est pleinement nourri et tellement nourrissant. Donc merci.
Avec grand, grand plaisir. Je vois que ton petit bonhomme, il fait dodo.
C'est ça, il est parti, c'est bon. Je
Ah.
t'embrasse bien, bien.
Mais écoute, je vais te souhaiter une très belle fin de semaine. Merci encore.
Et belle fin de semaine à toi aussi.
Ça
Plein de
marche.
chaudoudous.
À très bientôt.
Ciao, ciao.